Simon Cloutier, vous quittez la Fédération nationale des commissions scolaires francophones après 11 ans d'engagement. Je peux vous demander pourquoi?
Ben écoutez, c'est simple, là. Je veux dire, après avoir passé tant de temps, surtout les 3 dernières à la présidence, il faut comprendre que c'est un poste qui est quand même très demandant. J'ai passé plus que la moitié des 3 dernières années à l'extérieur de la maison puis de la ville. Donc, combiner travail à temps plein, fédération, famille, était pas évident. Donc, après 3 ans, j'avais commencé à être fatigué un petit peu, là. J'avais besoin de prendre une pause.
Plus qu'une décennie au cœur d'un organisme clé de la francophonie, de l'éducation, j'imagine que ça vous a permis de raffiner puis d'approfondir votre analyse de la situation. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vous ont marqué plus que d'autres?
Mais il y en a deux en particulier, là, la majoration là, de l'enveloppe du plan sur les langues officielles en éducation en était un important, là, parce que je pense que de mémoire, là, c'est depuis 2002, il n'y avait pas eu de majoration, alors que les effectifs partout au pays avaient augmenté beaucoup. Donc, la FNCSF avait travaillé d'arrache-pied là, pendant plusieurs années pour finalement avoir une majoration dans le dernier plan 2023-2028. Donc, ça, c'en était un. Et aussi l'autre. L'autre dossier majeur était évidemment là, le dénombrement des ayants droit, là, qui se faisait plusieurs décennies que les organismes nationaux, incluant la FNCSF, demandaient au gouvernement d'inclure des questions au recensement pour dénombrer les ayants droit. Donc finalement, on les a obtenus en 2021. On a eu notre premier dénombrement, puis ces données-là sont extrêmement importantes pour les conseils scolaires, pour leurs revendications en termes d'infrastructures, de programmes, de financement. Donc ça, c'était très, très, très important. Puis là, maintenant, ben, en date d'aujourd'hui, on continue encore à travailler avec le gouvernement pour s'assurer que ces questions-là restent au prochain recensement là, qui va avoir lieu l'année prochaine en 2026 pour qu'on puisse avoir une certaine continuité. Donc ça, c'était les deux dossiers majeurs, là, selon moi.
D'accord. Vous quittez au moment plus ou moins simultané avec le 35e congrès de la Fédération. Vous êtes, j'imagine, plus ou moins le co-auteur du plan d'action 2025-2030. Pour un néophyte comme moi et comme d'autres, on dirait que ce plan d'action-là aurait pu être 2020-2025. On parle le financement de l'éducation en français qui devrait être augmenté, améliorer la communication et la gouvernance, avoir plus de formation. Ça aurait pu être ça en 2020 aussi, peut-être.
Faut comprendre que c'est tout notre plan stratégique a été développé avec évidemment l'ensemble du conseil d'administration de la FNCSF, mais aussi en consultation avec nos membres, avec les parties prenantes, les autres organismes nationaux. Donc c'est pas c'est vraiment là, un travail là, concerté. C'est pas juste moi ou juste notre direction générale qui a travaillé sur le dossier. C'est vraiment tout le monde. Mais par contre, vous avez raison de dire que si on regarde le plan actuel, ces choses-là auraient pu être là avant, puis ces choses-là étaient là avant. Le problème, c'est que ce qu'on se rend compte, puis souvent on a malheureusement tendance à, je dirais pas oublier, mais mettre de côté un peu, c'est qu'on a tellement des grosses priorités sur lesquelles on travaille souvent, qu'on oublie des fois où on met de côté un peu les efforts qu'on doit faire à l'interne. Donc, tu sais, quand on parle d'augmenter les occasions de formation, ben c'est encore important, puis c'est encore pertinent, puis c'est pour ça que ça fait encore partie du plan. C'est pour nous aider, pour aider les membres de la FNCSF à ne pas oublier ces choses-là qui, souvent, comme vous l'avez dit, semblent des choses de base, mais pour être sûr qu'on va continuer à les appliquer, on les ajoute là, à notre plan stratégique pour que les gens au conseil d'administration, les nouvelles personnes, soient en mesure de mettre ça en place, puis de continuer sur ce qu'on a déjà fait. Puis c'est pour ça que nos cibles, ce que vous voyez pas dans le plan, mais nos cibles à atteindre, nos indicateurs de rendement sont quand même beaucoup plus élevés que ce qu'on avait avant pour s'assurer justement qu'on va
Oui.
continuer d'augmenter ces opportunités-là.
D'accord. Donc, il y a des cibles qui ne sont pas identifiées dans le document comme tel, mais que vous avez, puis qui mettent la barre plus haute, peut-être.
Non, exactement. Tu sais, quand on fait un plan stratégique pour que ça soit facile à comprendre et facile à consulter, c'est souvent sur une ou un deux pages, un document de 2 pages, mais comme tout organisme qui se respecte, on a aussi des indicateurs de rendement à l'interne pour s'assurer justement qu'on mette le plan stratégique en place, mais pour s'assurer aussi qu'on le fasse de la bonne façon. Donc, nos indicateurs de rendement sont quand même là, maintenant assez exigeants pour s'assurer que la fédération là, justement augmente son positionnement, mais augmente aussi ses opportunités, dépendamment là, des points là, au plan stratégique.
C'est ça. Vous parlez d'augmentation. On a toujours l'impression que la francophonie au Canada est en péril, qu'elle peut jamais se reposer sur une espèce de sécurité parce qu'on est un, les francophones sont minoritaires. Ça donne l'impression de toujours une espèce de vigilance constante qui est nécessaire si on veut pas avoir de recul dans les acquis.
Non, effectivement, c'est très bien expliqué, c'est exactement ça. Je veux dire, à partir du moment où on a obtenu l'arrêt Mahé en 1990, qui a mené à la création des conseils scolaires francophones un peu partout au pays, je veux dire, le dossier n'était pas réglé. Il y a plusieurs, on continue d'évoluer avec le temps, on continue d'évoluer avec les changements à la charte, les décisions de la Cour suprême qui s'ajustent aussi. En fonction de la période à laquelle nous sommes, il y a plusieurs jugements de la Cour suprême qui sont arrivés dans les derniers 6-7 ans qui auraient été impensables au début des années 90, mais c'est normal parce que c'est exactement la raison pourquoi la charte est là, puis pourquoi la charte comporte des objets. C'est pour justement permettre aux juges de dire, voici pourquoi cet article-là a été mis en place, voici les buts, ce qu'on espérait atteindre en mettant ça, mais évidemment, lorsque la charte a été écrite et signée, on ne pouvait pas prédire ce que le Canada de 2025 aurait l'air à ce moment-là. Donc, c'est à la Cour suprême souvent de trancher puis de légiférer pour s'assurer que justement l'objet de la charte puis de l'article 23 dans notre cas soit respecté. Donc, on s'ajuste, on évolue, mais vous avez raison, malheureusement, trop souvent, les francophones sont les premiers à être coupés lorsqu'on parle de coupure au niveau national. Puis il faut être très, très, très vigilant pour s'assurer que nos droits sont
Parler
respectés.
de 2025, pour revenir brièvement aux cibles en immigration francophone, celle pour 2025, c'est 8,5 % d'immigration francophone sur le total des immigrants. Ça monte à 9,5 % l'année suivante, à 10 % en 2027. Est-ce que c'est des chiffres qui sont suffisants selon vous? Puis est-ce que les cibles qui sont fixées en général sont-elles atteintes?
Ben, écoute, il y a deux volets, il y a deux volets à la question. Est-ce que les cibles sont suffisantes? C'est certainement un très bon pas dans la bonne direction parce que comme on le sait, puis on regarde les données du passé, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est un pas dans la très, très bonne direction pour au moins essayer de freiner justement l'écart entre les anglophones, la population anglophone et la population francophone. Maintenant, la deuxième partie de la question qui est très, très, très pertinente, c'est est-ce qu'on va mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer d'atteindre ces cibles? Mais ça, évidemment, ça reste à voir, mais je pense qu'on a quand même confiance avec tout le travail qui a été fait avec les décideurs publics à Ottawa, puis les mesures qui ont été entreprises ou proposées d'être mises sur place pour s'assurer qu'on va atteindre ces cibles-là. Je pense que c'est des cibles ambitieuses, mais je pense qu'on a quand même des bonnes chances de les atteindre. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'organismes nationaux qui travaillent sur le dossier puis qui justement démontrent une certaine vigilance pour s'assurer puis suivre les données pour s'assurer que si on n'est pas en mesure d'atteindre très, très rapidement ces cibles-là, qu'on puisse corriger le tir pour que quand on va arriver à la fin du plan, qu'on soit capable d'atteindre le 12% qui est proposé, là.
L'immigration, j'imagine, est un dossier, clé pour garder une francophonie vivante au Canada.
C'est clair parce que je veux dire, on se comptera pas de menterie, l'écart démographique entre les anglophones puis les francophones continue de s'accentuer. Donc c'est par l'immigration qu'on peut réussir là, à garder une certaine là, un certain niveau pour éviter de glisser encore plus bas. Puis évidemment pour nous et pour les conseils scolaires, c'est l'immigration francophone est quelque chose d'extrêmement important parce que justement ça permet d'avoir souvent plus d'inscriptions dans les écoles, d'avoir maintenant des meilleures infrastructures, d'avoir plus de financement pour offrir plus de programmes. Donc, quand on parle d'équivalence réelle en éducation, ben c'est une des façons que nous, ça nous permet de l'atteindre, malgré que ça ne met pas de côté là, les obligations des gouvernements provinciaux et territoriaux à nous fournir justement les moyens nécessaires pour offrir cette éducation-là. Mais à la fin de la journée, faut quand même admettre que ça permet aux conseils scolaires à travers le pays là, de justement être en mesure là, de mieux atteindre ou de potentiellement atteindre l'équivalence réelle en ayant plus d'inscriptions. Là, c'est évidemment le moyen le plus simple et le plus rapide, là.
Est-ce que la fédération s'est impliquée dans le dossier de l'école francophone à Fort Smith?
La fédération, à ce moment-ci, non, parce que le rôle de la fédération est quand même de soutenir ses membres, et dans ce cas-ci, le membre est la commission scolaire francophone des TNO. Et selon ce que la FNCSF en comprend, c'est que nous, la CSF TNO n'est pas encore directement impliquée dans le dossier parce que la poursuite est entre des parents de Fort Smith et le gouvernement des TNO. Mais c'est sûr que pour la fédération, puis ça a toujours été comme ça dans le passé, si on a un membre à travers le pays qui lève la main puis qui dit, nous, on a besoin de soutien, ben la FNCSF n'hésitera jamais à offrir le soutien nécessaire à son membre. Mais puis là, je peux pas parler. Je peux parler jusqu'à samedi parce que je suis plus là depuis samedi, mais jusqu'à samedi, il n'y avait pas eu de demande qui avait été reçue pour justement là, prendre position officielle sur ce dossier-là.
D'un point de vue personnel, est-ce que c'est un dossier que vous allez observer, maintenant que vous êtes dégagé quand même de vos obligations, dans la
Oui, bien,
fédération?
c'était un dossier que personnellement, j'observais déjà comme résident de Yellowknife des territoires du Nord-Ouest. C'est toujours membre du conseil d'administration de la CSFTNO, donc c'est évidemment un dossier que je suivais que je suivais puis que je suis encore de très près. Mais évidemment, je peux pas m'avancer aujourd'hui puisque je suis pas le porte-parole officiel de la CSFTNO. Je peux pas trop m'avancer, autre que dire que non, c'est un dossier que je suis avec beaucoup, beaucoup d'intérêt.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes encore impliqué dans la CSFTNO?
Effectivement, il reste 2 ans à mon mandat de commissaire scolaire. Donc, oui, je suis encore impliqué dans la CSFTNO.
OK, donc votre congé n'est pas total encore là.
Non, mon congé est pas total. Je veux dire, la CSFTNO prend quand même beaucoup de temps pour les gens qui s'impliquent. Mais les deux ensemble, CSFTNO, FNCSF combinés, étaient quand même
Ben oui.
beaucoup plus demandants, là, pour être honnête.
Ouais. Quelles sont vos attentes dans le rapport à la francophonie du gouvernement Carney, alors qu'il y a eu un contexte où l'économie et la défense sont peut-être encore plus à l'avant-plan qu'ils l'étaient dans les années précédentes?
Ben, écoute, c'est sûr qu'on se cachera pas, puis je me cacherai pas en disant qu'il y a quand même une certaine inquiétude, je pense, au niveau de la francophonie en général, parce qu'encore une fois, puis c'est ce que j'expliquais dans une réponse un peu plus tôt, c'est malheureusement, on est souvent les premiers à être coupés parce que c'est facile de couper les gens là qu'on pourrait dire entre guillemets les petits joueurs au niveau du gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il faut être très 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 vigilant. Par contre, je pense que ça crée quand même aussi certaines opportunités parce que oui, le gouvernement fédéral ne mise pas directement sur la francophonie, mais il faut quand même pas oublier que les francophones représentent quand même une grande partie de l'économie fédérale. Puis on peut être un excellent partenaire économique. Puis la francophonie ajoute une valeur économique aussi parce qu'on sait, c'est prouvé, les études le démontrent, les employés ou les emplois bilingues souvent vont avoir une rémunération plus élevée, donc génère encore plus de potentiel économique pour les familles. Donc, ça a un impact, c'est vraiment d'ajuster le message pour s'assurer que le gouvernement fédéral comprenne bien ça, que pour améliorer son économie, il doit aussi investir dans la francophonie. Et c'est aussi vrai au niveau de la défense nationale, parce qu'au niveau de la défense nationale, on a quand même, je me rappelle pas des dernières statistiques, là, mais en gros, plus d'un quart des membres des forces canadiennes sont des francophones. Si on est pour augmenter le niveau de militaires dans les forces canadiennes, puis augmenter les bases un peu partout au pays, ben il faut quand même être en mesure d'offrir des services francophones autour de ces centres-là, puis à ces militaires-là, puis à ces familles militaires-là, en créant plus d'opportunités d'éducation en français, plus de services au niveau des organismes à but non lucratif, que ce soit culturel, socioculturel, peu importe. Donc, plus de francophones dans les régions, autour des bases militaires, plus de services francophones vont être demandés. Donc, pour les deux dossiers, je suis d'accord avec vous que quand on les regarde de très haut, ça peut sembler négatif pour les francophones, mais en même temps, c'est une opportunité pour eux aussi de démontrer au gouvernement que si on veut justement atteindre des meilleures cibles en économie, puis des meilleures cibles au niveau de la défense nationale, il faut investir dans les francophones.
Merci beaucoup, Simon Cloutier, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup, j'apprécie.